Les Gérants d'Estrade est une présentation des tables de poker Full House. Vos tournois maison passeront à un niveau supérieur avec les tables haut de gamme Full House. Visitez le www.pokerfullhouse.ca.
Analyse, opinion et entrevue. Sur rbds.ca, bienvenue à l'émission Les Gérants d'Estrade. Et maintenant, voici celui qui n'a pas peur de ses opinions, votre animateur, Simon Smerica.
Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission spéciale des Gérants d'Estrade, spéciale sur la conférence américaine de la NFL. On va analyser toutes les équipes en présence dans chacune des divisions qui pourront représenter la conférence, le MVP. Bref, on va analyser ça avec notre expert Keith Solomon et vous pourrez comparer vos choix avec les nôtres car nous sommes tous des Gérants d'Estrade. Bienvenue dans une autre émission des Gérants d'Estrade, édition spéciale NFL, où on va voir les forces et les puissances dans la conférence américaine cette semaine. Et pour commencer, je vais recevoir mon collaborateur une fois de plus cette semaine en football, Keith Solomon.
Ah, oh, Simon, ça va bien.
Oh oui, t'as l'air en grande forme.
Oui, oui, toujours. Quand on parle du football, il n'y a rien de plus fun que de parler du football.
Ah, puis ça commence cette semaine.
Oui, j'ai hâte.
OK, on va t'assouvir tout de suite. On va commencer avec la conférence américaine.
OK.
Division Est.
Oh, OK.
Est-ce que les Dolphins peuvent chauffer les fesses des Patriots?
Oui. Sur papier, au moins, ils ont une meilleure équipe que l'année passée. Ils ont quart arrière maintenant avec Dante Culpepper.
Joe Harrington.
Oui, comme deuxième. Mais on parle de Dante Culpepper, vraiment. Là.
Il a joué blessé toute la saison?
Non. Mais il
non,
pas,
c'est vrai, il y a eu
des malaises.
Majeure, oui. Oui,
mais il s'est déchiré des ligaments dans son genou. Donc, quand même, ça, c'est une catastrophe, oui. Là, il est un nouveau joueur. Il y avait des problèmes de relations des médias à Minnesota à cause de l'événement sur le bateau, mais on va pas en parler.
La perte de Randy Moss.
Ça aussi. Et puis là, il est en nouvelle situation avec il y a Miami et il y a Ronnie Brown aussi qui on prévoit avoir 1000 verges à Miami. Donc, c'est une équipe, on prévoit de bonnes choses pour Miami présentement.
OK. Maintenant, Dante Culpepper, c'est-tu assurément le numéro 1 où Joe Harrington peut finalement s'impliquer là puis dire OK, moi je prends les choses en main à Miami là. Ma carrière est en jeu.
Dante Culpepper est le numéro 1 à Miami, point final. Joey Harrington, il a eu la chance d'être numéro 1 à Détroit, ça n'a pas marché. J'avoue qu'il n'y avait pas nécessairement le talent devant lui, sauf Roy Williams, Charles Rogers quand il était là, et il n'y avait pas de Kevin Jones, mais il a eu sa chance. Là, il faut qu'il le prouve encore une fois comme quoi il est capable d'être carrière numéro 1. Pour l'instant, c'est Dante Culpepper jusqu'à temps que Dante Culpepper soit se blesse ou il fait vraiment une mauvaise saison.
OK. Ronnie Brown, est-ce qu'il méritait d'être repêché si haut l'année passée? Puis si oui, pourquoi qu'on n'a pas donné le poste numéro 1 à lui plutôt qu'à Ricky Williams?
Ben, par exemple, on savait que Ricky Williams est entré dans une situation où, mon impression à moi, c'était un genre de situation provisoire. Donc, on savait que Ricky Williams, il y a bon 3, 4, peut-être 5 ans maximum. Ça donne le temps pour développer un carrière du futur là qui est Ronnie Brown. Et c'est ça la situation que Ronnie Brown est rentré dedans présentement.
OK. Puis si l'année prochaine, Ricky Williams revient à Miami...
Il va être numéro 2.
Il va tomber numéro 2.
Dans mon opinion, il va tomber numéro 2. Ronnie Brown, on dit qu'on prévoit une saison de 1000 verges. S'il est capable d'avoir ça, je pense que c'est assez bon pour s'assurer du premier poste.
Bon. Tu dis qu'ils sont capables de pouvoir chauffer les fesses aux Patriots. Est-ce que avec une attaque aérienne qui comprend les receveurs de passe Chris Chambers, malgré les statistiques de 82 attrapés, 1118 verges, 11 touchés, est-ce que c'est un receveur numéro 1?
Non, mais au moins, maintenant, il y a un corps arrière qui, au moins, peut lui lancer la balle. Donc, Chris Chambers, ça a l'air qu'il pourrait mieux faire avec être encore plus productif et maintenant, et probablement monter à cet échelon-là maintenant avec Dante Culpepper comme quart.
Okay. Il y a une grosse faiblesse, par exemple, la ligne à l'attaque.
Oui, mais Dante Culpepper est plus gros que carrière moyen et plus mobile aussi que les autres carrières qu'il y avait à Miami. Donc, je pense que tu veux quand même une bonne ligne en attaque, mais avec un carrière mobile et fort comme Dante Culpepper, c'est moins grave que d'autres places.
La défensive, c'est une des bonnes, ouais. Sauf peut-être au niveau de la tertiaire.
Ouais. Miami est toujours... ils sont bons contre la course. La tertiaire, il y a des joueurs qu'on connaît pas nécessairement, mais il y a eu beaucoup d'améliorations à Miami avec l'entrée de Nick Saban. Il a changé la philosophie de l'équipe et il a rentré des joueurs que lui voulait. Et là, il a eu la chance avec Dante Culpepper et aussitôt que Culpepper a rentré, ça a changé la philosophie de l'équipe au complet, je trouve. De côté offensif ainsi que défensif. Là, les défensifs savent que là, ils doivent produire et là, ils doivent se forcer à...
Nick Saban, est-ce que c'est un bien meilleur entraîneur que Wanstead?
Je dirais pas qu'il est un meilleur entraîneur que Wanstead. Je pense que vers la fin, Wanstead, je vais dire en anglais parce que ça dort mieux, he was set up to fail. Donc, he was given enough rope for him to hang himself with. Il a jamais eu un fair shake. Si Wanstead avait les joueurs qu'il avait maintenant, on aurait eu, on dirait les mêmes choses de Wanstead qui était un bon coach, puis était capable de développer l'équipe, et puis on s'attendait quand même de bonnes choses des Dolphins de Miami, mais je pense que Wanstead n'a jamais eu, surtout vers la fin, il n'a jamais eu la bonne chance de bénéficier d'une bonne équipe.
On va parler maintenant des Patriots.
Oui.
Qui va manquer le plus aux Patriots? Willie McGinnis, David Givens, Adam Vinatieri ou Deion Branch?
Bonne question.
Ils en ont beaucoup perdu, là.
Ils en ont beaucoup perdu, mais avant que ces joueurs-là ont arrivé avec les Patriots, les Patriots sont capables de trouver des joueurs de deuxième, des joueurs solides comme groupe, pas nécessairement des super vedettes, mais des joueurs solides comme groupe qui sont capables de produire et qui produisent bien dans le système auquel ils sont entraînés. Donc, on peut sortir presque n'importe qui, mais les joueurs, tu les connais pas personnellement, sauf Tom Brady. Mais les joueurs, même Corey Dillon n'a pas à avoir 1300, 1400 verges comme il était à Cincinnati, où l'attaque des Bengals de Cincinnati dans le temps. Là, voilà Corey Dillon, voilà ton rôle, tu fais ça la meilleure des possibilités et tout le monde fait leur travail.
Est-ce que Tom Brady, c'est le carrière qui ressemble le plus depuis Joe Montana?
Oui, il est capable d'avoir les meilleurs résultats avec les pièces qu'il y a autour de lui. Donc, il n'y a pas un Terrell Owens autour de lui, il n'y a pas d'autres choses autour de lui, mais il est quand même capable d'être productif et d'être de ce leadership et les intangibles qu'il apporte à l'équipe. Avec un Tom Brady, là, c'est l'équipe qui a une confiance comme quoi ils vont gagner.
Corey Dillon, à 32 ans, c'est-tu toujours l'homme de la situation?
Pour l'instant, oui. Ils ont un recrue. Les Patriots ont une nouvelle recrue. Et on pense bien que c'est le running back du futur de la franchise. Son nom m'échappe pour l'instant. C'est Mahoney. Lawrence Mahoney.
Lawrence Mahoney.
Et on pense que lui, il va être le running back du futur de cette franchise-là.
Au cours des années, la défensive, bon, elle vient de perdre Willie McGinnis.
Oui.
Tyler.
Oui.
C'est plus la défensive qu'on connaît. Là.
C'est plus la défensive qu'on connaît, mais je comprends pas comment ils font, mais ils sont capables d'avoir des résultats, la productivité des gens qui sont là.
Concept d'équipe.
C'est ça. C'est un vrai concept d'équipe. C'est Bill Belichick qui, avec ses plans et la façon dont il entraîne, et apparemment, c'est lui qui donne les plus de plans compliqués pour son équipe et pour les autres équipes. Ils ont dit que même ils ont des choses qu'ils n'ont jamais vues que les Patriots font sur le terrain que d'autres équipes ne font pas.
Maintenant, en troisième position, moi, j'ai mis ton équipe favorite, les Bills de Buffalo, que tu es à même de pouvoir vraiment décortiquer.
Qu'est-ce qui se passe à Buffalo?
Bon, le propriétaire Ralph Wilson, 87 ans, a ramené Marv Levy, qui a quelque chose comme 75 ans. 80 ans. Pourquoi le ramener?
Parce que la franchise était à son meilleur lorsque Marv Levy était dans l'organisation. Donc, moi aussi, j'ai trouvé ça suspect, mais quand même, Marv Levy est un bon homme de football. Il connaît le talent, il connaît le coaching, il connaît quoi que ce soit. Lui, c'est pas lui d'être le coach de tous les jours puis faire des journées de 16h, 17h dans le bureau, quoi que ce soit. Non, c'est lui de choisir le talent puis de choisir le coaching pour implanter le plan du match et la philosophie.
Le football a beaucoup changé depuis le temps de Marv Levy.
Oui, oui et non, parce que, ben, oui, le football a beaucoup changé. Il y a des nuances et des aspects du jeu qui ont changé. Il y a des joueurs qui sont peut-être plus athlétiques, plus forts. Ben, il y a quand même des choses que les bonnes personnes de football, les hommes qui ont pensé, qui ont conçu les différents plans, quoi que ce soit, qui sont capables de créer et d'enseigner cette philosophie dans l'équipe. Donc, je pense que les Bills ont besoin de plus que juste, pas seulement des meilleurs joueurs, mais un changement de philosophie.
Qui va remporter le derby des carrières? J.P. Lossman, Kelly Holcomb ou Craig Knoll?
Dans le fond, selon moi, ça va être J.P. Lossman qui va être le carrière partant. Je pense qu'ils l'ont déjà annoncé comme quoi c'est lui le partant. Mais c'est parce qu'il faut le développer aussi. Parce qu'il n'y a pas jamais eu nécessairement le talent autour de lui pour qu'il se développe comme carrière. Mais pour l'instant, c'est J.P. Lossman, mais je ne pense pas que Jake Geron va hésiter à sortir et insérer Kelly Holcomb si J.P. Lossman en arrache.
Portant le ballon, Willis McGahee.
C'est lui
mais
le...
Mais je dois t'avouer que je ne suis pas un de ses partisans.
Pourquoi?
Mais il m'excite pas. Il a beau avoir eu 1247 verges, il y a seulement 5 matchs de 100 verges et plus. Puis si t'as pas un carrière établi, puis surtout qu'ils ont plus beaucoup de receveurs de passes, ils ont perdu Eric Mould pour les Texans de Houston.
Eric Mould voulait partir aussi.
Willie McGahee, il faut qu'il fasse plus que 5 matchs avec 100 verges et plus.
Mais quand même, c'est un running back de, comme t'as dit, 1200-1300 verges. Et c'est lui l'attaque maintenant des Bills de Buffalo. Avec les bonnes attaques des Bills de Buffalo dans le temps de Jim Kelly et quoi que ce soit au début des années 90, ils avaient toujours les bons running backs, les bons receveurs. Et là, on a un receveur qui s'en vient avec Lee Evans. C'était Willis McGahee qui est le gars.
Oui, c'est le gars. Mais quand ton concept là, tourne alentour d'un ton portant de ballon, c'est parce que tu as une ligne à l'attaque pour le supporter. Puis la ligne à l'attaque...
En arrache.
En arrache. Mike Williams, qui a été choisi numéro 4, c'est un bust.
Oui, c'est un gros flop. Dans tes mots, là. C'est un gros flop. Et c'est des problèmes sur la ligne offensive de Buffalo qu'ils ont eu depuis les années de Doug Flutie et Rob Johnson. Surtout quand Rob Johnson se faisait ramasser dans le backfield avec ses vicieux coups qu'il recevait par d'autres équipes. C'est parce qu'il rentrait dans son blind side et il les voyait pas venir, là. Et c'est à Buffalo, je pense qu'ils sont peut-être un autre 2-3 années de développement parce qu'ils doivent développer les joueurs qu'ils ont. Ils ont repêché de bonnes recrues. Lee Evans est un receveur qui apparemment, on pense que cette année, il va avoir 1000 verges. J'espère que oui, parce que je suis partisan des Bills. Mais est-ce que je m'attends qu'il ait 1000 verges? Pas pour l'instant. Il y a Pierce Price qui en arrachait. Dans le camp. J'espère qu'il revient à sa retrousse, sa forme d'il y a 3-4 ans.
Bon, Eric Mould, tu m'as parlé tantôt, c'est lui qui voulait partir.
Apparemment, il y a eu avec des changements de philosophie ou quoi que ce soit à Buffalo, et puis il avait dit carrément, il était là fidèle à l'équipe et quoi que ce soit, mais avec son contrat et avec le propriétaire qui s'est impliqué là-dedans, il a dit, bon, je pense que la meilleure chose pour moi, c'est moi que je m'en aille.
L'équipe qui ferme la marche, les Jets de New York, les Jets, les partisans de New York, ça sera pas du content, là.
Non.
Bon, pourquoi avoir choisi Dubrickshaw Ferguson quand tu pouvais mettre la main sur Matt Leinart ou Jay Cutler?
Parce qu'ils ont encore confiance en Chad Pennington.
Est-ce qu'ils rêvent?
Chad Pennington est quand même un bon carrière s'il est capable de rester sans être blessé. Il est quelqu'un qui sait comment lire les jeux, il a de bons bras, il est capable d'être assez mobile quand même, il a assez bon bras, et les joueurs ont confiance en lui sur le terrain, mais il est fragile. Et ils ont rien, personne d'autre dans leur système qui peut vraiment le remplacer dans le cas où Chad Pennington se blesse. Mais je pense que qu'est-ce qu'ils vont faire avec Pennington? Ils vont garder peut-être un an, deux ans max. Je pense que les Jets vont repêcher encore dans la première ronde, pas l'année prochaine, mais peut-être l'année d'après, si ça continue de même. Parce que si je regarde ça d'une position d'affaires, Pennington, il gagne assez beaucoup d'argent. Son salaire m'échappe pour l'instant, mais il paye comme un corps numéro un. Là, tu repêches un autre corps qui est supposé d'être le numéro un dans 2, 3, 4 ans. Tu vas le payer comme un quart de premier poste. Donc, c'est beaucoup d'argent avec la masse salariale de la Ligue nationale de football à payer à deux joueurs. Un d'entre ces deux-là qui ne joue pas régulièrement.
Curtis Martin parti?
Je pense que oui. C'est désolé la non, façon...
Il est parti, il a pris sa retraite. Là.
Oui, il a pris sa retraite. Il, comme j'allais dire, c'est désolé comment la façon dont il est parti. Je veux pas voir un joueur qui se blesse comme ça, là, mais c'est un joueur de classe. Et il devrait être dans la temple de la renommée parce qu'il a produit toutes les années. Il est quatrième sur la liste pour les verges par la course. Donc, Curtis Martin, ils vont avoir la difficulté de le remplacer, même avec les gens qui ont ramené dans le système.
Parle-moi donc de la brigade des receveurs de passe.
Des Jets? À part le Vernius Coles, les autres joueurs, je les connais pas vraiment. Donc, je pourrais pas dire que, oui, c'est Santana Moss, je pense. Il y a le Vernius Coles qui est parti à Washington, qui est revenu. T'as l'autre qui était là, Santana Moss, qui est parti des Jets, il est resté à Washington. Mais pour le Vernius Coles, mais après les autres joueurs, il y a Wayne Quebec qui a pris sa retraite à la fin de l'année passée. Le receveur, c'est comme unité, ils en arrachent. Mais c'est ils doivent peut-être repêcher quelqu'un. Peut-être quelqu'un d'autre va sortir dans leur système et ils vont dire, bon, il va émerger comme un numéro 2 ou même un autre numéro 1.
À défense, John Abraham, la perte, c'est une grosse perte.
C'est une très grosse perte. Les Jets, avant la saison, j'ai parlé avec un de mes amis, puis on dit que les Bills, je sais que je prends une tangente, là, les Bills, s'ils avaient 5 victoires, je serais très, très, très surpris. Là, je garde toujours que les Bills vont avoir 5 victoires, là, mais les Jets, je pense que c'est encore pire. Ouais. 4-12, 3-13, ouais.
OK, ils vont repêcher dans les premiers l'année prochaine. Ouais. On va aller du côté de l'Association américaine Division Nord.
OK.
Moi, les Steelers ne seront pas champions dans cette division-là. Ça va être les Bengals.
OK, oui. Parce que je pense que sur papier, ils ont beaucoup plus de talent.
OK. Carson Palmer.
Oui. He's the real deal.
Perfect. Y a des joueurs pour bien entourer ça.
Oui.
Rudy Johnson.
Rudy Johnson est un porteur de ballon qui est très solide.
Fiable.
Il est productif.
Pas un superstar, mais quelque chose de vraiment fiable.
Non, mais je dirais quand même, ils affichent des chiffres de temps à autre de superstar aussi, là. Peut-être à cause qu'il joue à Cincinnati qu'on en entend moins parler et on le voit moins à la télévision, mais c'est un joueur qui très, très, très productif.
Chan Johnson?
Oui, une des classes des receveurs de passe dans la Ligue nationale.
Bon, ça, c'est la vedette de l'équipe.
Oui.
C'est le combo, là. Carson Palmer. Pis...
C'est vrai. C'est le combo. Là. Pis ils ont une très bonne développement. Là, ils ont un cadre de la franchise, receveur de passe de la franchise et un porteur de ballon pour la franchise. Là, ils sont très bien placés. Who's Manzer? Il est un joueur très, très, très solide. Il est capable d'être productif dans ses rôles aussi. Il connaît son rôle ici, son rôle sur l'équipe. Et puis, il est productif, il aide l'équipe. Et lorsqu'il double là, sur Chad Johnson, ça lui donne la chance d'être encore plus productif sur le terrain avec des passes.
L'attaque, c'est une des mieux équilibrées. La défensive a été surprenante l'année dernière.
C'est vrai, ils ont joué en dehors de leur capacité l'année passée.
En dehors de leur capacité. Au-dessus, tu veux dire?
Ouais, au-dessus, merci.
OK, toi, tu penses que finalement, ils ont joué au-dessus de leur tête, ce ne sera pas aussi beau cette année.
Ça se peut, mais c'est parce qu'ils vont avoir une horaire encore un petit peu plus difficile cette année à cause qu'ils ont bien fait l'année passée. Si Carson Palmer ne s'était pas blessé dans ce match contre les Steelers l'année passée dans pour le championnat de la AFC. Je pense que c'est pas certain que les Steelers auraient gagné ce match-là.
Ouais, c'est juste que je la trouvais peut-être un peu trop légère, la défensive de Cincinnati. Quand tu rencontres des équipes qui ont toujours une grosse ligne à l'attaque avec des bons porteurs de ballon lourds qui courent straight up, c'est là qu'ils pouvaient gruger au niveau de la défensive. Mais là, ils ont racheté Sam Adams, 6 pieds 4, 335 livres.
He's a big boy.
Oh oui. Fait que, d'après toi, son champion dans le Nord?
Ouais.
OK. Deuxième position, les Steelers. Là, ça va pas bien. Il y a eu Ben Roethlisberger puis Barrett Brooks qui se sont blessés en moto.
OK.
Brooks, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi qu'il a fait la même gaffe suite à l'accident de Big Ben?
Non, je peux pas te l'expliquer pourquoi. Non, écoute, c'est... Les gars, écoute, t'es sur une moto, tu portes un casque. Point. C'est ça me semble clair. Roethlisberger, surtout là, j'ai vu des scènes de l'accident sur la télévision là. Il est chanceux d'être vivant.
Ouais, apparemment c'était une affaire de 2 minutes puis il était mort. Là.
Ouais, c'est vrai. Il est très chanceux d'être vivant. Et quand Roethlisberger, je pense qu'ils ont même, dis-moi si j'ai tort là, mais ça se peut même ils ont rebâti sa face, je pense.
Ouais, je pense que oui. Il était complètement
magané là. Oh, c'est ça, ta tête a rentré dans une voiture là.
Moi, ce que je pense que ça va faire le plus mal, puis que les équipes se sont
améliorées
contre les Steelers, c'est au centre de la ligne à l'attaque que les Steelers, avec Jeff Harting, 34 ans, toutes les équipes ont été chercher de gros nose tackles.
Okay.
Les Bengals ont été chercher Sam Adams, 335 livres.
Oui.
Les Ravens ont été chercher Aloti Ngata, 338 livres au repêchage. Puis les Browns ont été chercher Ted Washington, 365 livres. À quelque part, tu uses ton gars à rencontrer ces gars-là 6 fois dans ta saison.
Oh, c'est vrai. C'est vrai. Les Steelers sont quand même une autre équipe semblable aux Patriots dans le fait qu'ils se fient à un système. Bill Cowher, il aime la course. La course est une grosse partie de leur attaque et est capable aussi de prendre des joueurs et de les développer et d'en faire des vedettes et des joueurs solides. Donc, le fait que t'as leur nose, t'as le centre des Steelers qui est peut-être plus petit que les autres joueurs qui va faire face, là, je pense que Bill Cowher est assez d'expérience pour adapter à ça. Il aime aussi sortir les jeux,
en anglais,
surprise, des trick plays et c'est beau à voir, là. Il en a fait une belle contre les Patriots, je pense, pendant ce match. Et je pense qu'ils vont très très bien s'adapter à ça. Donc ça, je trouve ça moins grave que si c'était dans d'autres situations.
Suite à la blessure du boss.
Ouais.
Willie Parker.
Willie Parker, c'est un joueur solide, là. Il a potentiel d'être un All-Pro, là. C'est 1000 verges, s'il reste.
C'est impressionnant, c'est sa vitesse.
Oui.
En ligne droite, il est vraiment impressionnant.
C'est vrai. Et Bill Cowher, il y a toujours des coureurs de balles qui couraient en ligne droite. Pas nécessairement des gars comme, petits athlétiques, genre un Tiki Barber qui coupe ou Sean Alexander qui coupe, c'est OK, voilà le ballon puis right down your throat, genre.
La brigade des receveurs de passe avec Hines Ward, ça va, mais oui. Ils ont perdu Antoine.
Randall L. était troisième receveur à Pittsburgh. Il était pas nécessairement il était carrière en collège. Il savait comment lancer une balle, puis il y a un genre de joueur qui a donné une nouvelle facette au jeu, surtout à l'attaque.
La défensive, une petite faiblesse peut-être au niveau de la tertiaire.
Mais Troy Polamalu est toujours là, donc.
Mais ça, c'est un free safety.
Free safety. Et quand même, c'est la classe.
Ah oui. Il n'y a pas d'autre là-dessus.
Et il y a aussi Ike Taylor, qui est quand même un cornerback qui est solide comme joueur. Mais lui a des problèmes avec du contrat. Il va être agent libre l'année prochaine. Donc, ça se peut fort bien qu'il s'en va après cette année.
On va aller du côté des Ravens. La seule équipe, le seul entraîneur à avoir une fiche perdante 2 années de suite, qui a réussi à garder son emploi.
Parce qu'il a gagné le Super Bowl il y a quelques années. Donc, les propriétaires, dans mon opinion, propriétaires sont suffis quand même à sa philosophie à lui. Ils savent qu'il n'y avait pas nécessairement le talent sur son équipe qu'il y avait sur d'autres équipes. Même l'année qu'ils ont gagné le Super Bowl, l'attaque, il n'y avait pas nécessairement le talent. Il y avait Jamal Lewis qui courait, mais comme groupe, il n'y avait pas nécessairement besoin d'avoir du talent, juste des gars qui faisaient part d'erreurs.
Non, c'est sûr, quand tu gagnes un Super Bowl avec Trent Dilfer.
C'est ça.
OK, corps arrière, Steve McNair.
Une nette amélioration.
Nette amélioration. Est-ce que McNair a encore du jus dans le corps?
Mais oui, écoute.
Il y a l'air d'un gars fini.
Il n'est pas nécessairement fini comme tel. Écoute, comme Tennessee, là, il jouait blessé jusqu'à temps que, écoute, il était trop blessé qu'il ne veut plus même marcher ou quoi que ce soit, être productif sur le terrain. Mais Steve Wagner peut encore jouer. Et il y a des receveurs.
Running back, Jamal Lewis, mais surtout l'arrivée de Mike Anderson.
Oui, comme ça, ils peuvent courir la balle plusieurs fois au courant du match.
Jamal Lewis, c'est plus... qu'il a eu ses problèmes avec...
Jamal Lewis va être, selon moi, va être un des comeback player of the year. Ouais, c'est quelqu'un qui est quand même, il est 26-27 ans, là. Il a quand même d'autres bonnes années devant lui. Il est quand même
fort comme un bœuf.
C'est ça, fort comme un bœuf, comme tu le dis. Il va être productif, là. Je pense qu'il va avoir une saison où il rebondit cette année, là.
Sa ligne à l'attaque, à part de Jonathan Ogden, le reste, c'est vraiment pourri, là. Puis c'est ça qui fait peur.
Je comprends, mais Jamal Lewis, comme tu dis, est fort comme un bœuf, donc...
Ouais, mais si le trou, il est pas là...
Si le trou, il est pas là, à un moment donné, il va y avoir d'autres personnes qui vont bloquer pour lui. Il est aussi capable de créer. Il va pas avoir 2000 verges. On s'entend bien. Mais il va quand même être un porteur de ballon productif.
Les receveurs de passe, Derek Manson, Mark Clayton.
Ouais, c'est quand même une autre amélioration qu'est-ce qu'ils avaient aussi. Et comme ça, ils ont un carrière qui est mobile et qui peut lancer la balle, qui fait de bonnes décisions avec McNair. Comme ça, ils peuvent...
Derek...
Oui, c'est le même receveur numéro un de Tennessee qui ont laissé partir aussi. Donc, Derek Mason s'est rendu à Baltimore. Et là, Steve McNair est là. Il avait déjà une relation avant. Donc, McNair, s'il connaît les tendances de Mason, et Mason connaît les tendances de McNair. Donc, ça, c'est un autre tandem qui ont le potentiel d'être aussi productif pour Baltimore.
On va parler des Browns, mais on n'en parlera pas super gros parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. À part qu'ils ont été chercher quand même des acquisitions intéressantes. On a parlé tantôt de Ted Washington, oui. Nose Tackle, Willie McGinnis,
oui.
Et Joe Jervisius.
Oui.
Je veux dire, ils ont fait quand même un effort pour essayer d'améliorer des choses.
Oui, mais... Et là, je me sens un petit peu mal pour Romeo Crennel parce qu'il est dans une organisation où ça n'a pas l'air d'avoir une direction. Il essaie d'implémenter quelque chose et puis ça, soit ça marche pas, soit c'est les propriétaires ou quoi que ce soit qui s'impliquent là-dedans, soit... On sait pas, mais il y a une philosophie de perdant, de loser dans cette organisation-là. Il n'y a pas de...
C'est triste pour l'homme parce que c'est un beau personnage.
C'est ça.
Mais c'est... Il va perdre son emploi cette année.
Mais c'est ça, mais pas nécessairement cette année là, mais l'année prochaine là, ils vont être moins patients avec lui. Et il y a des joueurs qui se blessaient, comme Kellen Winslow s'est blessé en motocyclette la dernière année. Il aurait aidé l'équipe.
Est-ce que le problème se situerait plus au niveau de la direction avec Ozzie Newsom?
Je pense que c'est là où c'est plus le problème dans l'organisation, c'est avec la direction. Peut-être pas Newsom personnellement, ou peut-être lui fait partie du problème, mais c'est pas nécessairement Romeo Crennel. Lui, sa job, c'est de coacher le talent qu'il y a sur devant lui. Donc, s'il y a juste un talent limité devant lui, il doit le coacher quand même.
Très peu de personnes au Québec vont sûrement connaître les carrières que je vais te nommer. Charlie Fry, Ken Dorsey, Derek Anderson. Lequel qui va être partant?
C'est Charlie Fry, apparemment, mais...
Fragile.
Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas?
On pourrait peut-être leur envoyer Calvillo.
T'aimes vraiment pas Calvillo,
bon,
okay. Toi. Hein?
On va passer à la division sud. Avec la division sud, avec les Colts d'Indianapolis.
Oui, ils sont quand même une très bonne équipe. Ils ont perdu Edgerrin James, mais ils ont deux joueurs. Okay? C'est Joseph Adak et James Mongrove. Ils sont quand même productifs comme porteurs de ballon. Donc, ils peuvent
Mais Adak est à sa première saison.
On entend bien, là. Mais et Peyton Manning, le Peyton Manning d'il y a 2 ans, il va forcer à lancer le ballon.
La perte de Edgerrin James, OK, on rajoute Joseph Adair, mais c'est en régression pareil.
Ouais, mais on ne sait pas. Ils peuvent émerger comme un autre vedette porteur de ballon. On ne sait jamais. Mais Edgerrin James, la perte d'Edgerrin James va faire mal à cette équipe-là. Mais ils peuvent quand même, ils ont quand même toujours le receveur de passe. Marvin Harrison, Brandon Stokely, ils ont quand même ces joueurs-là. Donc, ils peuvent quand même lancer la balle, puis si tu veux faire un shootout avec les Colts, là...
La défensive l'année passée a été vraiment surprenante. Ça a été une surprise.
Oui.
Est-ce qu'ils peuvent répéter?
Je pense que oui. Ils ont dans une bonne veine. C'était une nette amélioration de l'année d'avant, en 2004. Et je pense qu'ils n'ont pas fait trop de changements. Tony Dungy est quand même un bon coach, puis un bon enseignant. Donc, surtout sa philosophie, ça commence à être pris sur l'équipe. Et ils ont vu les résultats avec la défensive.
Tony Dungy, est-ce qu'il perd son emploi s'il ne se rend pas en finale de conférence?
Non. Je pense que quand même, on veut lui donner le temps à Indianapolis de développer une philosophie sur l'équipe et donner l'impression et ramener les joueurs et les gens de joueurs que lui, il veut dans cette organisation-là avant qu'on le congédie ou on le menace de le congédier.
Grosse perte, Vander Jack.
Ça va être quand même une perte, mais ils ont Vinatieri, donc c'est quelqu'un, ça se remplace.
Ils l'ont bien remplacé.
Ils ont très bien remplacé.
Maintenant, les Jaguars en deuxième position?
Par défaut.
Donc, Baron Leftwich, il commence à s'imposer, là. C'est un bon.
C'est un carrière solide. Il n'est pas encore émergé comme carrière super vedette, là.
Mais c'est encore un bon prospect.
Il est quand même un bon prospect. Il est quand même établi comme le numéro un, là. On dit qu'il n'est pas aussi mobile ou quoi que ce soit que d'autres carrières. Ça, c'est correct, mais il peut quand même lancer la balle, puis il est quand même quelqu'un qui est capable de jouer blessé.
Moi, ce que j'aime surtout des Jaguars, c'est que, bon, Jimmy Smith a pris sa retraite à 37 ans.
Oui.
Puis là, il y a des belles grosses cibles pour Leftwich. Matt Jones, 6 pieds 6. Reggie Williams, 6 pieds 4. Et ils ont repêché le Titan Mercedes Lewis, 6 pieds 6.
Wow, big boys.
C'est des grosses cibles.
Oui, oui, oui. Et j'aimerais voir leur attaque juste pour voir s'il est capable de bien repérer et utiliser ces gros joueurs-là à son avantage à lui. Parce que Leftwich, dans le fond, il est un pocket passer. Il n'est pas nécessairement un carrière qui est mobile, qui va se chercher à trouver des trous s'il n'est pas capable de. S'il s'est fait blitzer ou s'il y a d'autres joueurs qui viennent dans sa direction rapidement.
Est-ce que Fred Taylor, c'est encore le même guy, là?
Fred Taylor, ben oui, ben pour l'instant, oui, jusqu'à temps qu'il se blesse. c'est vrai, j'espère que lui est capable de rester en santé pour l'année au complet. Mais il est quand même un porteur de ballon qui est solide. Si tu l'as dans ton équipe de fantasy football, c'est quand même tu prendrais une chance sur lui. Parce qu'il est quand même capable d'être productif quand même comme porteur de ballon.
La défensive, je la connais pas beaucoup, à part de John Anderson, 6 pieds 7, 328 livres. Oh. Où ce que j'ai vu la semaine passée dans un match hors concours, avant les matchs, il demande au soigneur, qui est à peu près 8 pouces plus petit, de lui donner des claques à la gueule
j'ai
pour pouvoir
ça.
Le craquer.
J'ai vu ça.
Il faudrait pas qu'il se revanche sur le pauvre petit gars.
Non, ouais. Mais j'ai vu des claques, puis c'est des vraies claques comme pas à peu près, là. C'est. Wow.
J'espère qu'un soigneur, il est bien.
C'est vrai.
Il est bien assuré.
Assuré, puis soit il connaît du karaté ou quelque chose. Parce que
les Titans.
Oui.
Ils ont choisi Vince Young au repêchage. Puis ça, ça a fait discuter un peu.
OK. Pourquoi?
Beaucoup de personnes voyaient Matt Leinart en premier.
Oui, mais apparemment, on disait que Matt Leinart, dans le repêchage, et lorsque... Parce que lui, Matt Leinart, son nom était toujours là parce qu'il était candidat pour le Heisman Trophy et il jouait pour la meilleure équipe dans la nation à ce moment-là.
Il avait gagné le trophée de Heisman l'année d'avant.
Oui. Il était finaliste cette année avec son coéquipier Reggie Bush et deux autres joueurs. Et
lequel, d'après toi, qui va être qui a une meilleure carrière?
On disait que dans le draft, on avait comme... Il y avait trois carrières qui étaient avant Matt Leinart, comme selon les experts, quote unquote, sur ESPN pendant que je regardais le repêchage. Ils ont tous été repêchés avant Leinart. Il y avait, je pense, Jay Cutler et il y avait un autre que le nom qui m'échappe, ainsi que Vince Young. Vince Young avait toujours la réputation comme étant quelqu'un de mobile et il est capable de créer plus. Il est plus loin dans son développement que Matt Leinart. Apparemment.
Juste... Kerry Collins est rendu avec les Titans. C'est lui qui va commencer la saison avant Vince Young.
Ouais, Vince Young est pas numéro un. C'est quelqu'un qui s'appelle Billy Volek. Mais apparemment, à cause que Kerry Collins est rentré, Billy Volek veut s'en aller.
Ok, lui, je le connais pas.
Oh, c'était le backup à Stevie. Pas Steve Young. Steve McNair.
Travis Henry.
Ex-Buffalo Bill.
Pas capable, lui. Pas capable.
Pourquoi? C'est quoi ton problème avec Travis Henry? C'est quand même un...
Pas de chef.
OK, ben parce qu'il joue pas. T'as Chris Brown qui joue devant lui. Travis Henry est un petit porteur de ballon.
Il n'y a rien, finalement, avec les Titans.
Ils rebâtissent leur équipe. Et ils rebâtissent autour de Vince Young. Soyons honnêtes.
Est-ce que Vince Young, c'est un Michael Vick?
Dans ce genre-là, mais un Michael Vick qui fait peut-être de meilleures décisions en lançant la balle.
À ce moment, je sais qu'il y a tout un bras, par exemple.
Oui, c'est ça.
Moi, je pense qu'il y a un meilleur bras encore que Michael Vick.
C'est ça. C'est ça, quelqu'un qui est mobile, qui est fort, et là, en regardant contre USC, quand il jouait pour Texas, là, c'est là où il a vraiment fait sa réputation. Là.
À moins que tu aies autre chose sur les Titans, moi j'ai pas envie de m'étirer sur eux autres, ça va être une bataille pour la dernière place avec les Texans. Puis il me semble que les Texans sont mieux garnis encore que les Titans.
Normalement, oui.
Les Texans ont repêché numéro un, Mario Williams.
Oui.
Plusieurs pensaient que c'était pour être Reggie Bush.
Oui.
Moi, au mois de janvier, durant une émission que j'ai eue, j'avais dit dans mon segment Shot Clock que le meilleur move que les Texans pouvaient faire, mm-hmm. c'était d'échanger leur premier choix pour régresser en troisième ou quatrième position.
OK.
Aller chercher un autre choix repêchage en retour aussi. Ils n'en ont pas besoin de Reggie Bush parce qu'il y avait Dominic Davis qui est quand même respectable comme.
Respectable, mais apparemment, c'est. Ils vont pas nécessairement le garder. Ils veulent quand même développer quelqu'un pour le futur. Et
il y avait Jonathan Wells aussi.
Oui.
Bon, à ce moment-là, la pire ligne à l'attaque, c'est c'était eux autres qui l'avaient.
La pire ligne.
Debrickshaw Ferguson, c'était l'homme qu'il fallait pour stabiliser ça un peu.
Oui, parce que David Carr se faisait ramasser. Je l'avais dans mon pool de fantasy football l'année passée. Je le sais. Il se faisait ramasser, il se faisait frapper en arrière de la ligne d'attaque 3, 4, 5, 6, 7 fois par match.
Là, ils n'ont pas le choix. Mario Williams va falloir que ce soit un gars qui rentre au Hall of Fame. Puis ils n'ont pas le choix, là. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le futur Reggie White?
Reggie White, je ne sais pas encore. On ne sait jamais avec les recrues. J'aimerais pas dire que oui, c'est un futur Hall of Famer ou quoi que ce soit parce qu'il y a des Hall of Famers qui ont sorti, qui ont été repêchés dans les 3e, 4e, 5e, 6e, même 7e ronde. Donc, je veux pas dire que oui, c'est le gars. Je veux vraiment l'attendre jouer. Là. Pose-moi la question.
Mettons. Ben, toi, qui, Salomon? Tu avais le premier choix. Est-ce que tu prends Reggie Bush, Debrickshaw Ferguson pour stabiliser ta ligne à l'attaque ou tu prends Mario Williams? Parce que leur philosophie à eux, c'était ben, si on affronte les Colts, ben, Reggie Bush fera pas la différence parce qu'ils vont faire trop de points contre nous autres. Donc, faut empêcher les Colts de faire des points. On va amener Mario Williams.
Je pense que j'aurais quand même pris Reggie Bush parce que. Je veux un running back pour le futur. Moi, c'est ma philosophie à moi. Commence avec l'attaque au moins parce que l'attaque, Dominic Davis, il, surtout les deux, trois dernières années, je l'avais dans mon fantasy football, puis il a la difficulté à rester en santé. Donc, ils veulent le garder comme ça, t'as Reggie Bush, tu te développes, puis apparemment, Reggie Bush est tout un athlète.
Mais d'un autre côté, t'amènes Reggie Bush, t'as la pire ligne à l'attaque, tu peux pas, il fera pas grand chose.
Je comprends, mais il faut travailler la ligne aussi. Et je comprends pourquoi tu dois essayer d'aider la ligne aussi. Je pense que c'est la priorité sur l'équipe. T'as quand même des receveurs sur l'équipe qui sont bons. T'as Andre Johnson et t'as quand même Dominic Davis qui sont capables de marquer des points. Mais la priorité de l'équipe, c'est la ligne offensive. Mais Reggie Bush, c'est Reggie Bush. C'est quand même un athlète que je pense que avec le choix numéro 2, là, si j'étais dans le War Room des Texans, j'aurais dit... Ouais, hometown kid, il va vendre des billets.
Le joueur le plus spectaculaire qu'on dit depuis Barry Sanders.
Genre, ouais. J'aurais pris une chance sur Reggie Bush. Puis je pense qu'il va faire des choses spéciales pour Nouvelle-Orléans, personnellement.
Est-ce que David Carr pourrait sortir éventuellement comme un carrière aussi bon que Carson Palmer l'a fait l'année dernière?
S'il a une ligne offensive devant lui. Ça revient à la même conversation qu'on avait là. Tout ça dépend sur la ligne offensive. Si David Carr a le temps de lancer le ballon.
C'est de là que moi je partais avec l'idée de Debrickshaw Ferguson.
Oui, ils ont pas tort à reprocher de Ferguson, mais...
Probablement, t'aurais peut-être pu même, au lieu de prendre un choix repêchage...
Prendre un joueur d'expérience.
Et moi, tu dis, mais gars, je vais te prendre en plus un joueur de ligne à l'attaque en plus. Là, tu aurais eu deux joueurs à ligne à l'attaque.
Oui, c'est une priorité sur l'équipe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et si tu as repêché quelqu'un, ça se peut fort bien qu'il va très, très bien, là, mais Reggie Bush, c'est Reggie Bush.
OK. La venue de Eric Mould.
Oui, ça va aider l'équipe. Là, il n'est plus receveur numéro 1 à Texas. Il devait être peut-être receveur numéro 2 ou 3.
Oh!
Il n'est pas de receveur numéro 1, c'est Andre Johnson qui va.
Ah, Andre Johnson, c'est une déception, cet homme. C'est une déception. Je l'ai eu dans mon fin de cipo, vous allez passer, puis c'est une déception.
Je l'avais, OK, écoute. Andre Johnson, là, quand t'as le cas arrière qui se trouve sur le dos la moitié du temps, quand est-ce qu'il va te lancer la balle?
Puis il est fragile.
Andre Johnson? Mais apparemment, il est gros et fort, là. J'ai pas vu beaucoup de lui, mais apparemment, il est gros et fort, mais il s'est blessé l'année passée aussi.
La défensive, il y a Mario Williams. Je veux dire, tout va tourner autour de lui.
Oui.
Un monstre de 6 pieds 7.
Big man.
Ouais, lui, on l'appelle monsieur. Il n'y aura pas le choix. Ils disent que c'est un futur Julius Pepper, un Reggie White.
I'd like to see that.
Ben, moi aussi. Puis, veux pas, je pense que le choix de Mario Williams, la direction, puis Mario Williams va avoir beaucoup de pression parce que c'est lourd de conséquences, là, ce choix-là.
Oui.
Surtout si Bush ou Ferguson...
Gang recrue de l'année, maintenant.
Oh, ouais. c'est lourd de conséquences.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui va perdre sa job.
C'est vrai.
OK, on va s'en aller dans la AFC West. C'était difficile de mettre quelqu'un un champion. Moi, j'y étais avec les Broncos.
Oui, c'est le choix qui est plausible. Je pense que dans la conférence, dans cette division-là, ils ont le plus de talent et la plus de stabilité avec leur coach Mike Shanahan qui est là. Ça fait assez longtemps qu'il est là, je pense 10 ans même, qui est le coach des Broncos. Ils ont pas l'équipe à gagner le Super Bowl là puis l'année prochaine, mais Mike Shanahan a une capacité de développer des genre no-name qui sortent et qui deviennent des porteurs de ballon de 1000 verges.
OK, moi, c'est une question que je te pose en partant le camp arrière. C'en est un qui est sur ma liste que je jaillis. Jake the Snake Plumber. Gars, qu'est-ce qu'il fait? Là, je sais,
pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il fait?
Ben oui, puis en plus, il a une moustache. Je veux dire... y a-t-il quelqu'un qui peut dire de se raser la moustache au moins?
Ouais.
Bon, c'est-tu l'homme qu'il faut pour les Broncos? Moi, je peux pas voir dans ma tête, dans mon esprit, que Jake Plummer pourrait ramener un Super Bowl à Denver.
Je pense que il est quand même un bon carrière. Il y a des carrières qui sont moins bons que lui. Il est pas nécessairement le gars le plus mobile, mais il a capacité d'être solide comme carrière quand même. Il faut qu'il sache seulement jouer dans ses moyens.
On l'aime pas peut-être parce que justement, on était habitué de voir à Denver un gars comme John Elway, puis que là, finalement, tu te ramasses avec un carrière de deuxième ordre.
Oui, mais c'est John Elway. John Elway, là. C'est lui qui est une légende dans cette région-là, mais Jake Plummer, tant qu'il gagne pas les gros matchs, c'est ça avec Jake Plummer, il est capable d'être solide, productif comme carrière, mais tant qu'il gagne pas les gros matchs, il serait pas considéré comme un quart de premier plan. Et surtout avec les receveurs qu'ils ont. Là, il est probablement les meilleurs receveurs comme groupe qu'il y a, ça fait depuis 3-4 ans à Denver. Et là, je pense que Jake Plummer, s'il produit pas cette année-là, il va pas être là l'année prochaine.
Les porteurs de ballon, Tatum Boyle. La venue de Jevon Walker, ça par exemple, c'est quelque chose d'important pour les Broncos.
C'est vrai. Ils ont un receveur numéro 1 qui rentre. Après, c'est blessé au genou. Et il doit se prouver comme quoi il est encore un receveur de premier plan dans la ligue. Et puis, il doit être capable d'être productif comme receveur. Et j'ai hâte à le voir.
Rod Smith perd son poste numéro 1, ça veut dire?
Je pense que oui. Je pense que Javon Walker va devenir le nouveau numéro 1. Mais Rod Smith est toujours quelqu'un de constant, qui produit toujours les mêmes genres de résultats année en année. Donc,
c'est un duo de receveurs de passes quand même impressionnant, autant que celui de la Caroline avec Johnson puis Smith.
Ils sont capables d'être très, très, très productifs.
Donc, cette année, Plummer, il a tous les outils pour pouvoir réussir.
It's now or never.
La défensive, t'as-tu quelque chose à dire?
Ils sont quand même très très bons. Ils sont capables. Je sais pas s'ils sont capables nécessairement de gagner des matchs tout seuls, mais ils sont quand même un défensif qui sont assez bons. C'est surtout je pense que les changements qu'ils avaient à faire, ils l'ont déjà fait. Et c'est surtout sur l'attaque où ils avaient des difficultés ou des lacunes, je veux dire. Donc les défensives, ils sont quand même en bon shape quand même.
En deuxième position, t'as le choix, toi. Tu prends qui, les Chiefs ou les Chargers?
Ouh, Chiefs.
Chiefs. Okay. Trent Green, 36 ans, ouais. 17 touchés, 10 interceptions. Est-ce que c'est la fin cette saison pour Trent Green?
Je pense qu'il va avoir une autre saison, celui-ci et l'année prochaine peut-être. Mais l'attaque, on s'entend bien, c'est Larry Johnson et Tony Gonzalez.
Tony Gonzalez qui a eu une saison très décevante l'année dernière.
Tony Gonzalez s'est blessé l'année dernière, je pense. Donc, je pense qu'il va revenir en force. Il est un des top 4 tight end dans la ligue. Donc.
Est-ce que c'est une régression avoir maintenant Herman Edwards plutôt que Dick Vermeil?
C'est pas une régression, c'est un changement de philosophie, quote unquote. Chaque fois que tu as un nouveau entraîneur qui rentre en jeu, il parle d'un changement de philosophie. Donc, Herman Edwards, pas conservateur, mais avec les Jets, il avait plus de contrôle. Il aimait courir la balle. Il était gros sur l'attaque. Il était gros sur des joueurs capables d'être utilisé dans plus qu'une position. Donc, ce serait intéressant à voir. Je pense que j'aimerais voir leur défense de Kansas City, juste pour voir s'ils étaient capables de faire des correctifs qui leur manquaient pendant, mettons, les deux dernières années.
Larry Johnson s'est imposé. Il a pris vraiment la marche à Priest Holmes.
Oui.
Qu'est-ce qui va arriver avec Priest Holmes?
Priest Holmes ne va pas jouer cette année. Je pense qu'à cause de son coup, où il s'est fait opérer, je pense que c'est ça, il va être prêt. Il joue pas cette année, et puis je pense que on va lui demander de prendre sa retraite juste parce que...
Des gars comme Priest Holmes puis Marshall Faulk, qui ont toujours été des joueurs dominants dans la ligue, ça doit être difficile à prendre de soudainement être régressé au second violon.
Oui, mais lorsque t'es blessé et t'es pas capable d'être productif comme joueur, ils ont quand même une fierté comme homme aussi d'être... bon, si je suis pas capable de jouer, je veux pas blesser l'équipe ou quoi que ce soit, ou peut-être.
Mais je connais pas le contrat à Priest Holmes, mais ça doit être quand même assez important. Ça fait comme cher comme deuxième porteur de ballon.
Je comprends, mais même à ça, avec Priest Holmes, là, même s'il joue pas cette année, il est quand même payé, là. Il s'est blessé au travail. Donc, des assurances ou quoi que ce soit, c'est couvert, là. Donc, comme argent, il va recevoir quand même son cash. Mais je pense pas que c'est quelque chose avec le cash. Pour lui, surtout, lui, Marshall Faulk, c'est les gens, c'est une fierté. Ils veulent être le gars, ils veulent toujours être le gars, mais ils savent qu'à un moment donné, ils vont plus être capables de performer aux capacités qu'ils s'attendaient d'eux.
Larry Johnson, est-ce que ça a été la chance du débutant ou si c'est vraiment un excellent porteur de ballon?
Je pense que c'est le real deal. Pour moi, je pense que c'est le real deal. Kansas City, ils ont toujours eu des porteurs de ballon qui ont sorti de... Lorsque Priest Holmes est arrivé à Kansas City, il était presque donné par Baltimore. Il pensait que, oh bon, c'est toujours joueur de deuxième part, quoi que ce soit. Et puis, il est devenu une vedette à Kansas City. Larry Johnson a la même chance. Il est devenu une vedette. Donc, Kansas City, je comprends pas comment ils font. Ils ont toujours été capables de retrouver des porteurs de ballon qui étaient très, très, très productifs.
La défensive, on s'ennuie de Brooks, on s'ennuie de Neil Smith. C'est plus les années, dans les années 90 où il y avait vrai. Quelque chose de vraiment puissant puis de dominant.
Mais respecté, non. C'est pas ça. Surtout avec, les problèmes dans le tertiaire qu'il y avait pendant les deux dernières années, là. Je me souviens du match, pour le championnat de la AFC. Bon, mais pas pour le championnat, là. Pour les semi-finales de la AFC, il y a 2 ans, les Colts contre Kansas City, à Kansas City, puis les Colts n'ont jamais, fait un punt du ballon. C'est Peyton Manning qui a complètement démoli leur défense, leur tertiaire, là. Donc, je pense qu'ils ont fait certaines améliorations, mais j'aimerais le voir sur le terrain en real speed, en real time contre notre équipe.
Qu'est devenu Dante Hall?
Dante Hall est toujours là. C'est là que les autres équipes ont probablement amélioré leur couverture sur les bottés de retour ou quoi que ce soit, parce que je me souviens bien, lorsque Dick Vermeil était entraîneur à Kansas City, ils avaient certains jeux spécifiques où ils donnaient des blocs, quoi que ce soit, comme ça, Dante Hall aurait leur trou. Donc, c'est normalement avec les bottés de retour, bon, trouve-toi un trou, essaie d'avoir la meilleure position, quoi que ce soit. Mais là, il y avait des jeux spécifiques à courir, comme ça, il y avait la chance de retourner la balle pour un toucher.
Les Chargers, maintenant. En troisième position, mais quand même, Philip Rivers.
Ça se peut fort bien qu'il devienne très, très, très productif. Il y a le Damien Tomlinson et Antonio Gates.
Keenan McCardell.
Et Keenan McCardell, qui est productif comme joueur, comme receveur. Donc, ben, le Damien Tomlinson et Antonio Gates, c'est la classe de... NFL, là, okay. c'est...
Philip Rivers qui a été échangé contre Eli Manning, entre autres.
C'est vrai, ce serait intéressant pour être capable de voir Philip Rivers finalement jouer, vraiment prouver que lui méritait d'être échangé et qu'il mérite le poste numéro 1 et qu'il mérite que Drew Brees soit plus là.
LaDainian Tomlinson, c'est le lapin énergisant là, présentement.
Mais oui, il se blesse pas, il joue blessé, il joue... quoi que ce soit, puis toujours productif. Il n'y a rien à dire là-dessus.
En moyenne en carrière, 340 portées par saison, 1472 verges, 14 touchés en moyenne par année. Wow!
Et ça, c'est quand San Diego, là. Souviens-tu des cartes de San Diego il y a 5-6 ans?
Je me souviens de Jim McMahon.
Genre. Donc, mon point était, il y avait moins de talent autour de lui. Puis, il a quand même été capable d'être productif comme dans soit étant receveur de passe ou porteur de ballon. Donc, le Daniel Tomlinson, là, même tu parles de la ligne de San Diego, quoi que ce soit, le Daniel Tomlinson va toujours être productif. Lui et aussi Antonio Gates, à cause que Philip Rivers, dans le fond, est un recrue qui va jouer sur la ligne. Donc, Antonio Gates, je pense, selon moi, va avoir beaucoup de ballons lancés dans sa direction à lui.
Des gars qui sont ultra rapides, grands et forts comme Antonio Gates.
Qui est un joueur de basket à l'université.
Ah oui, en plus. Vernon Davis, qu'on a nommé la semaine dernière avec San Francisco. Est-ce que c'est des joueurs qui pourraient être transformés comme Elias Passé?
Non, parce que je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait David Boston. Souviens-tu de lui?
Oui, il avait joué avec Arizona.
Oui, et San Diego par la suite. Il était un gros receveur de passes, mais dans le fond, gros receveur de passes bâti comme un tight end. Et puis, on trouvait ça, c'est moins, il était trop gros pour sa position. Donc, je pense pas que nécessairement on peut convertir quelqu'un de cette grandeur-là en receveur de passe. Receveur de passe, il faut être quand même fort pour receveur de passe, mais il faut être rapide et agile. À 250, 260 livres là, de muscles, des gros, t'es fort, mais est-ce que t'es agile? Ça, je ne sais pas.
Les Raiders, pourquoi avoir amené Hartshell?
C'est quelqu'un que Al Davis connaît déjà. Il a déjà joué pour les Raiders. Il connaît la philosophie d'Al Davis. Il a déjà été entraîneur des Raiders auparavant. Il essaie d'établir un nouveau régime, un nouveau système, puis il est avec quelqu'un qu'il connaissait. Ce serait intéressant à voir comment Aaron Brooks réagit avec Randy Moss, surtout avec Hartshell, parce que Hartshell, si je me souviens bien, surtout dans les matchs contre les Bills, il a toujours été comme conservateur avec ses jeux qu'il appelait. Mais ce serait intéressant à voir.
Toi, tu as le choix de reconstruire une équipe. Tu prends-tu Randy Moss au-dessus de Terrell Owens ou de Marvin Harrison?
Bonne question, mais tu parles de Randy Moss ou Terrell Owens ou Marvin Harrison là?
Oui.
Je dirais Randy Moss parce qu'il est plus jeune que les deux autres. Terrell Owens, je pense qu'il a 32 ans, puis Marvin Harrison, il a 32-33 ans. Là. Donc, les deux, c'est des phénomènes.
Bon. Avec Jerry Porter, qui est quand même un bon deuxième receveur de passe.
Oui.
Aaron Brooks, il n'a pas le choix. Maintenant, il faut qu'il se prouve.
Oui, mais je pense que la ligne offensive à Oakland, ça fait un peu dur. Là. Donc, il ne va pas nécessairement toujours avoir la protection nécessaire à faire un jeu. Donc, il doit utiliser sa mobilité et être vite sur le bouton. Là. Être vif sur le bouton parce qu'il va falloir s'adapter à des situations qui va devant lui.
C'est pas le gars de la situation. Là,
Aaron Brooks, je pense, c'est un... Je veux dire en anglais, un band-aid solution. Donc,
pourquoi que les Raiders n'ont pas choisi Jay Cutler ou Matt Leinart?
Parce qu'ils voulaient un carrière d'expérience pour avoir des résultats maintenant au lieu de mettre la saison dans l'eau et repêcher une autre carrière. De toute façon,
Il y a une certaine parité quand même dans cette division-là.
Oui, mais ils ont aussi des deux carrières, là, des carrières, là, Tuiasopopo et je vais juste sortir Marcus Tuiasopopo et Andrew Walter. Et je pense qu'ils sont très. Ils aiment beaucoup Tuiasopopo, Marcus Tuiasopopo, le deuxième quart. Donc, ça se peut que lui, il essaie de le développer comme le quart du futur de la franchise.
Lamont Jordan,
c'est une grosse partie de l'attaque. Lui, il se doit d'être productif pour les Raiders pour que l'équipe soit productive.
Keith, maintenant que c'est terminé, on a fait le tour des 32 équipes. C'est l'heure des prédictions. Dans la conférence nationale, qui va faire les frais de la finale de la conférence nationale?
J'aime Caroline et Seattle.
C'est mes choix. Qui va aller en finale au Super Bowl dans la conférence nationale?
Dans la conférence nationale, je pense que Caroline bat Seattle dans cette division-là.
C'est mon choix aussi. Dans la conférence américaine,
okay.
Qui va faire les frais de la finale de la conférence?
J'aime les Patriots et j'aime, je veux dire Cincinnati, mais je dis ça avec une certaine résistance. On va dire les Patriots et on va dire Cincinnati.
C'est mes choix. Moi, je dirais Cincinnati et Indianapolis.
Comment je savais qu'il allait dire Indianapolis?
Qui va se rendre en finale?
La Super Bowl.
Super Bowl.
Caroline. Et New England.
Moi, je dis Caroline, Cincinnati.
Cincinnati, là.
Et qui va remporter le Super Bowl si tu dis Caroline et Patriots?
Je dirais cette année, cette fois-ci, la Caroline.
La Caroline.
Je dirais cette fois-ci.
Et moi aussi, même si c'est Caroline Cincinnati, la Caroline va gagner le Super Bowl, ça va être bien intéressant. Ton MVP cette année?
Mon MVP cette année, le Daniel Tomlinson.
Il va falloir qu'il mène
l'équipe. L'équipe, ouais. The most valuable player to the team.
Yep.
Soit lui, Alexander en deuxième, Brady en troisième.
C'est tellement difficile, il y a tellement de bons joueurs là-dedans.
Je veux dire Manning en troisième, Brady en quatrième.
Rookie of the Year?
Rookie of the Year is Reggie Bush.
Reggie Bush.
Ouais.
Oh, ça va être intéressant. Keith, je te remercie beaucoup, ça a été fort agréable.
Oh, j'ai vraiment apprécié ça, bien fun.
Écoute, si ça te tente de participer à d'autres émissions, que ce soit football ou hockey, parce que je sais que tu as des excellentes connaissances en hockey aussi.
Canadien de Montréal, numéro 1.
Là, tu viens de faire plaisir à beaucoup de monde. Écoute, on va te réinviter.
Bien sûr, j'aimerais revenir. Là. C'est ben le fun.
Moi, je vais en profiter pour remercier les commanditaires qui, grâce à eux, il y a cette émission, les Tables de Poker Full House. On espère que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie et à la semaine prochaine.
See you next week for another show with Simon Smirka and his guests.